Alors, on est bien heureux d'être avec vous ce matin. On est venu en groupe, c'est pas toute l'église maison. Il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas venir. Alors, on est bien heureux d'être ici. Et une des choses qu'on va faire dans les prochaines semaines en tant qu'église maison, on va visiter certaines églises une fois par mois. Pour évaluer comment est le culte, on veut-tu faire ça comme ça nous autres ici, etc. Et Eliébert et Gisélie, ils arrivent du Brésil, ils sont en train d'apprendre le français. Alors, pour ceux qui connaissent Jean Sauvageau, Mathieu, c'est son fils. Et Mathieu aspire à être pasteur et donc en train de le former pour la relève. Évidemment, nous-mêmes. Donc, oui, Janice, de son petit nom, excusez. Puis, au niveau de... C'est intéressant ce que Dieu est en train de faire, comment accueillir. Dieu est en train d'ouvrir une porte dans la ville. Vendredi matin, on m'a accepté officiellement comme aumônier, agent pastoral dans un C3S à Montréal, à La Salle. Et pour moi, c'est une grande porte ouverte que Dieu vient de faire. Et je me réjouis, je ne peux pas savoir comment, être en contact avec les gens, les accueillir, ramener l'Évangile dans les relations interpersonnelles. Alors, priez pour ce petit noyau qui est à La Salle. Notre nom d'église, ça va être Ecclesia. Ecclesia. Puis, notre mission, on s'est dit comme mission, révéler la grandeur de Jésus-Christ à travers notre faiblesse. Révéler la grandeur de Jésus-Christ à travers notre faiblesse. On a besoin de vos prières, je peux vous dire, le combat est intense à Montréal. Et c'est comme à Longueuil, mais Montréal spécial. Alors, merci beaucoup, priez pour nous. Merci. L'accueil. Regardez souvent ce qui se passe dans une église au niveau de l'accueil. Regardez bien l'acétate. La diapo, oui. 21e siècle. Bienvenue à notre église, même si vous êtes assis sur le banc de notre famille. Avez-vous remarqué que quand on arrive, en général, l'étude de groupe nous dit que on s'assoit presque toujours à la même place. C'est comme instinctif. Et souvent, ces choses-là vont arriver. On ne le dira pas aussi directement. Mais le langage non-verbal va communiquer quelque chose. Tu me déranges. Tu me sors de ma zone confortable. Maintenant, on a un Dieu qui accueille, hein, comme le thème qu'on est en train de voir. Et j'aimerais, avant l'introduction du message, parler de deux prérequis pour une église qui accueille. Rapidement, premièrement, une révélation de l'accueil de Dieu envers moi. Vous l'avez vu la semaine passée. Je veux juste ressouligner, si j'ai l'impression que Dieu a vraiment obtenu une faveur en m'acceptant sur son équipe, d'une manière quelconque, le Seigneur est vraiment privilégié de m'avoir dans son équipe, bien inévitablement, à cause de mon sentiment d'auto-performance, je vais commencer à comparer. Ah, ben lui, il est moins performant. Je vais commencer à juger, parce que je le trouve moins performant, ou à me décourager parce que je suis plus performant que moi. Et il y a un aveuglement sur soi qui s'installe, inévitablement. Pensez à l'église de Laodicée, qu'est-ce qu'il disait? Parce que tu dis que tu es riche et que tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre et nu. L'église de Laodicée comprenait mal qui elle était. Elle s'aveuglait sur sa propre condition. On va lire un texte des Écritures qui nous parle comment on devrait agir envers nos frères et sœurs.
Alors, la lecture biblique de ce matin est tirée du livre de Matthieu, au chapitre 25, du verset 32 à 46, dans la version Second. Matthieu, chapitre 25, au verset 32 à 46. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi au Seigneur, « Quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et t'avons-nous pas servi? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. »
Merci. Quelle différence avec l'Église de Laodicée? Elle a dit, je suis riche. Ici, on voit des gens en besoin. L'Église de Laodicée a mis en oubli la purification de ses péchés. Vous savez, quand les gens viennent à l'Église, ils s'attendent, les gens qui nous visitent, souvent à avoir des propres justes, parce que les gens religieux, en général, que les gens connaissent, c'est des propres justes. C'est des gens qui obéissent à la morale et qui se voient comme des gens bien. Lorsque vous faites de l'évangélisation, on fait ça au métro. Invariablement, quand on leur demande la question, pourquoi serais-tu accepté devant Dieu? Invariablement, 9 sur 10, sinon 10 sur 10. Ils disent tous, je suis une bonne personne. Les gens se voient comme quelqu'un de bien. Et vous savez, dans notre condo, je demeure dans un condo, puis il y a 10 condos. Et la première journée qu'on est arrivé dans le condo, il y avait un ex-prisonnier qui demeure là dans le sous-sol. Et la première nuit qu'on passe là, je ne me souviens pas exactement l'heure, 2-3 heures du matin, 4 chars de police. Puis, vraiment là, c'est difficile. Puis, il y a un gars qui court dehors nu. Il avait fait une overdose. Et les polices sont en train de le poursuivre, essayer de l'arrêter. Il est vraiment hors réalité. Alors, c'est l'accueil qu'on a eu. Mais, ensuite, on a commencé à connaître les gens du bloc. Et là, tout le monde haïssait ce propriétaire-là, qui fait telle ou telle chose. Et moi, la réflexion qui me venait, parce que je voyais qu'il le jugeait là, vraiment là, de haut en bas. Et la pensée qui me venait, c'était, il est plus près du royaume de Dieu que vous tous. Il est plus près du royaume de Dieu que vous tous. Et vous savez, il y a un mois, il s'est converti. Et là, il se demande, qu'est-ce qui se passe? Ça se discute. Il y a une des propriétaires, elle commence à faire circuler. dit. Je dis pas ça pour moi, là, mais Richard l'a influencé. Et l'Évangile, voyez-vous, eux se percevaient comme étant là. Là, ils voient la transformation que Jésus est venu opérer. Est-ce que lorsque les gens vont venir à l'Église, ils vont voir des propres justes? Ou des gens qui se rappellent que Dieu les a visités dans sa grâce? Ils n'ont pas mis en oubli la purification de leurs péchés d'autrefois. C'est très grave de mettre en oubli la purification de nos péchés d'autrefois. Vous savez ça? C'est terrible, les conséquences. Ça, c'est le premier prérequis. Des gens qui se rappellent de la grâce qui leur a été faite. Et parce qu'ils se rappellent de la grâce qui leur a été faite, ils sont ouverts aux pécheurs, aux pauvres. Annoncez la bonne nouvelle aux pauvres, dit Jésus. Deuxième prérequis, un pardon réel. Vous le savez. Mais vous savez, si dans ma vie, il n'y a pas le pardon réel dans les relations par rapport à mon passé, lorsque quelqu'un arrive à l'Assemblée et qui ressemble ou qui est dans mon petit groupe et qui ressemble étrangement à cette personne qui m'a offensé, soit physiquement, soit au niveau caractère, tempérament, oh, il y a une distance entre moi et lui. Il me fait penser à quelque chose, à quelqu'un, à un événement que je n'ai pas réglé. J'aimerais que vous regardiez une citation de C.S. Lewis que j'ai trouvée dernièrement. Il dit, wow, c'est vraiment un intellectuel du 20e siècle, il est très connu du milieu évangélique. Voici ce qu'il dit. Croire en la rémission des péchés est loin d'être aussi facile que je pensais. Une réelle croyance au pardon est le genre de chose qui peut facilement glisser si nous ne continuons pas à le peaufiner. Nous croyons que Dieu pardonne nos péchés, mais aussi qu'il ne le fera pas, à moins que nous pardonnions aux autres personnes leurs péchés contre nous. Il n'y a aucun doute sur la deuxième partie de cette affirmation. Elle est dans notre Père. Il a été catégoriquement déclaré par notre Seigneur, « Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. » Aucune partie de son enseignement n'est plus claire. Il n'y a pas d'exception. Il ne dit pas que nous devons pardonner les péchés aux autres à condition qu'ils ne soient pas trop horribles ou à condition qu'il existe des circonstances atténuantes ou quoi que ce soit du genre. Nous devons tout leur pardonner, quelle que soit la méchanceté, quel que soit le nombre de fois répétées. Si nous ne le faisons pas, nous n'obtiendrons pas le pardon de nos propres péchés. C'est toute une affirmation. Le pardon dans ta vie est la démonstration que la grâce t'a été faite. Le pardon envers les autres, c'est une démonstration, c'est un thème de l'Évangile de Matthieu. C'est une démonstration que la grâce t'a été faite. Lorsque tu refuses de pardonner, et je comprends que des fois ça prend quelque temps, mais lorsque tu refuses de pardonner, tu es en train de couper ce qui te donne la vie, la grâce de Dieu. Dieu dit, je t'ai accepté par ma grâce, par mon amour infini. Oh, que Dieu nous aide à avoir ces deux prérequis. D'avoir compris la grâce qui nous a été faite et de donner la grâce. Et si on a ces deux prérequis-là, ça va nous aider à accueillir les gens. Définitivement, ça fait toute une différence. Maintenant, comment accueillir? Maintenant, l'accueil simple dans la grâce. On va commencer par le plus facile, mais on va aller au plus difficile, OK? L'accueil simple dans l'assemblée. Ça commence par l'atmosphère qui se dégage dans l'Église. C'est très important, vous savez, l'atmosphère qui se dégage dans une Église. C'est imperceptible, on le sent. On le ressent. Et ça commence par un accueil non-verbal. L'affection. Romains 12, 10. Écoutez bien ça. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Le mot-là est utilisé seulement une fois dans le Nouveau Testament. Et j'essaie de le chercher à travers la littérature avant la période du Nouveau Testament, et je l'ai retrouvé dans un exemple assez frappant. C'est l'histoire de Anne avec ses 7 fils, et ils refusent de manger le porc devant le roi Antiochus Épiphane. C'est une histoire assez connue dans l'Ancien Testament, c'est dans la période des deux Testaments. Et ils obligent les Juifs à manger du porc. Et les 7 fils sont là et ils refusent de manger le porc. Et Antiochus et Épiphane leur disent, vous allez mourir si vous refusez de manger le porc. Et les 7 fils de cette femme-là, Anne, refusent de manger le porc. Et le texte décrit l'affection qu'elle avait pour ses 7 fils. Et il meurt devant elle. Et finalement, elle aussi meurt à cause de sa foi en Dieu et de son obéissance à l'ancienne alliance, où c'était interdit pour un Juif de manger du porc. Mais ce terme d'affection, lorsque je lisais ce récit-là, je me disais, waouh, c'est utilisé là, dans ce contexte-là. Elle aimait ses 7 fils. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Un des dictionnaires traduit, donne le sens du mot relatif à l'amour, à l'affection envers ceux qui sont proches, en particulier les membres de la famille immédiate. Le terme même en grec a la notion de famille. On traduit très affectueux, chaleureusement. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre notre famille? Quand tu rencontres ta famille? Party familial. C'est quoi tu fais, naturellement? Hein? Hey, salut! Puis, en général, dans notre culture, les gars, on se donne une bonne accolade et les dames, on donne un saint baiser. Ça, c'est culturel. N'est-ce pas? Dans nos familles, c'est ça. Quand je vois mes filles, je les ai vues en fin de semaine, et que j'aime ça les embrasser. Parce que je suis leur père. C'est l'amour familial. C'est l'affection familiale. Et j'aime ça les serrer. Et le conjoint de ma fille, Sarah, lui, il n'était pas habitué avec ça. Mais dès le départ, je dis, il va apprendre. Mais ça s'en vient. Regardez la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'on obéit ça à cette simple exhortation qui est répétée 4 fois dans le Nouveau Testament? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, Romains 16, 1 Corinthiens 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, 2 Corinthiens 13, répétez-le après moi. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser et, vous le répétez encore, 1 Thessaloniciens 5. C'est simple. Mais vous savez que ça, là, ça communique quelque chose de très important. Ça a un profond impact sur ceux qui nous visitent. Oh! Est-ce que les gens arrivent dans une rencontre familiale le dimanche matin? Il faut les respecter, je comprends ça. Hein, un nouveau, on respecte sa zone de confort, c'est très important. Le respect est très important. Mais si tu ne connais pas tout le monde, parce que l'Église est plus grande, peux-tu saluer chaleureusement ceux que tu connais? Leur montrer de l'affection? Mais j'ai une question pour toi. Es-tu prêt à réapprendre ce que c'est l'amour familial? Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu es rentré dans la famille de Dieu. Dieu t'a adopté. Puis il dit, dans la famille de Dieu, c'est un peu différent dans ta famille. Et moi, il a fallu que j'apprenne ça. Lorsque M. Alexanian, plusieurs le connaissent, la première fois qu'il m'a salué, première fois, « Hey, Richard! » Moi, je n'étais pas habitué à ça. J'avais le goût de rentrer dans le plancher. Littéralement. Vraiment mal à l'aise. Mais j'ai appris. Maintenant, j'attends son affection. J'attends qu'il me prenne dans ses bras. C'est bon. Ma question, es-tu prêt à réapprendre? Est-ce que ta conception de la famille est centrée sur l'Écriture? Soyez plein d'affection les uns envers les autres. C'est marqué, c'est dans la Bible, ça, non? Je me souviens un frère à Granby. Son frère était militaire. Vous imaginez? Justement, je me suis reproduit. M. Alexandre m'a formé. Et là, j'ai commencé à le prendre dans mes bras. Vous auriez dû le voir la première fois. Il était mal à l'aise. Mais je savais que c'était approprié dans son cas. Vous devriez le voir aujourd'hui. Vous devriez le voir. Donner, il a réappris. Ça se fait réapprendre, vous savez. On entre dans la famille de Dieu justement pour ça. Pour réapprendre. Mais il faut que tu changes. Il faut que tu réévalues la façon dont tu as vécu la famille. Vous savez, je suis allé dans plusieurs églises américaines dans les dernières années. Et je suis sorti vraiment triste, des fois choqué. On entrait dans une réunion. Pas de salutation mutuelle, vraiment. Pas de relation familiale, fraternelle, affectueuse. On sortait, pas de salutation. J'étais vraiment troublé. Troublé, c'est le mot. Choqué, une fois particulièrement. Fait que ma femme me calme. Choqué. C'est ça l'Église? C'est pas ça l'Église. Excusez, là. L'Église, c'est une famille. Et on peut être 500, 1000, on peut être une famille encore. Se saluer affectueusement les uns les autres. J'étais allé à Rosemont la semaine passée. Ils sont à peu près votre nombre. Et j'ai senti l'atmosphère familiale. Ça se fait, les frères et sœurs, malgré le nombre, de garder une atmosphère familiale dans l'Assemblée. Pratiquons-le. Pourquoi je parle de ça? Ben, Jésus l'a dit dans Jean 13, 35. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand on rentre dans une salle, puis il y a de l'affection qui correspond à ce qui est dans la culture, évidemment, qui n'est pas inapproprié. Ça parle. Ça parle. Donc, une communication d'affection, non, hein, tu ne dis pas un mot, mais quelque chose est communiqué. Ensuite, ce qui est plus facile aussi, c'est une célébration colorée qui reflète les couleurs de la diversité locale. Hein? C'est un message non-verbal frappant. La population de l'Église de l'Espoir devrait en partie refléter la démographie de la ville de Longueuil. Quand les gens arrivent, ils devraient être capables de dire « Ah, il y a quelqu'un qui est un peu comme moi ici. » Vous saviez qu'il y a 18 000 personnes à Longueuil, d'après le recensement de 2011, dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. 18 000. Il y a 7 000 espagnols, qui parlent l'espagnol plutôt, 5 000 d'arrière-plan arabe qui parlent l'arabe, 3 000 qui parlent le créole et 1 500 roumains et persans. Quand la personne rentre, il devrait avoir de la couleur un petit peu. Vous d'accord ça? Ça devrait refléter la population locale. À la salle, on n'a pas le choix. Chez nous, là, à droite, à gauche, c'est des néo-québécois. Et ici, vous avez un peu plus le choix. Il y a pas mal de Québécois de souche. C'est facile, on est bien entre nous, hein? Mais c'est pas ça que Dieu a en vue, hein? On va célébrer toutes les nations au ciel. Pratique-toi. Pratique-toi, parce qu'au ciel, là, on s'en va à un endroit, ça va être très multiculturel. Commence à pratiquer à l'Église. Et quand les gens arrivent, Non simplement, il voit les gens un peu de leur arrière-plan, mais en plus, il regarde en avant. Ah! Il y en a de la couleur ici. Ah! Il y en a qui sont impliqués. À travers le leadership, il y en a qui sont impliqués. Ça, ça parle. On n'a pas dit un mot encore. On n'a pas parlé. On a salué. Les gens regardent, mais on a parlé très fort. On a parlé très fort par le langage non-verbal. Deuxièmement, l'accueil verbal est pratique dans la grande assemblée. C'est-à-dire, B, l'accueil verbal est pratique. J'aimerais vous faire jouer, faire écouter une chanson que vous avez chantée tantôt. Le Seigneur avait bien planifié les affaires. Fait qu'on va l'entendre et remarquer quelque chose dans la chanson qui est très important. On ne l'écoutera pas toute, juste une partie.
En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnons la vie.
Vous remarquez? Quelque chose qui vous a frappé? Il nous appelle par notre nom. Oh! Demandez aux Québécois d'apprendre quelque chose par cœur. Ça, c'est un défi, je vous dis. Là. Je suis Québécois de souche. Puis quand je demande à un Québécois de souche d'apprendre quelque chose, des versets par cœur, on a une réaction émotionnelle violente. Je veux dire, c'est fort. C'est incroyable. On a été marqués de nos grands-parents qui se faisaient taper dessus sur la main parce qu'ils n'avaient pas appris les choses par cœur. Et ça a passé génétiquement, je ne sais pas trop comment. Mais ça a passé, c'est clair. Donc, derrière, Jésus arrive et il dit, Pierre, Simon, Nathanaël. Il les appelle par leur nom. Moi, j'ai hâte que Jésus, quand je vais le voir, qu'il me dise, « Hey, Richard, hey, je ne suis pas un inconnu. Pour Jésus, je suis son frère. Il me connaît. Il me connaît par mon nom. » Donc, tenter par un effort réel de connaître les noms de nos frères et sœurs. Et je vous dis, moi, là, j'ai de la misère, c'est incroyable. Demandez à ma femme si vous ne me croyez pas. Dans la famille, on n'a pas de mémoire. C'est une passoire. Et il faut que je fasse un effort. Si vous saviez comment, lorsque j'étais à Grimby, quel effort je déployais pour apprendre les noms par cœur. Je suis jaloux de René Fré. Lui, il entend un nom, là, ça reste. C'est décourageant. Mais quel que soit ton contexte, commence à apprendre le nom de tes frères et sœurs. Comment ils s'appellent? Et des fois, c'est tellement embarrassant. Hein? t'es sûrement eu cette situation-là. Hein? Tu devais connaître le nom, puis tu t'en souviens pas. C'est tellement embarrassant. Est-ce que tu vas faire un effort pour apprendre les noms de tes frères et sœurs, les saluer chaleureusement? Des choses simples, très simples, pas compliquées, mais ça communique quelque chose. Hier, l'aumônier qui m'entraîne dans le C3S, il dit, « Richard, ça fait toute la différence quand on arrive avec les gens qui travaillent là-bas, puis il dit, « Hey, bonjour, Jeannot! » les gens sont touchés. Et il avait raison, je savais. Alors, j'ai du travail sur la table. Hein? Une autre façon. Ah! Avez-vous déjà expérimenté ça? Tu arrives dans une église. Tu es accueilli extraordinaire à la porte. Oh, wow! C'est chaleureux ici. Puis là, le culte vient de terminer. Puis là, tu es là, tu restes planté. Personne ne vient te saluer. C'est terrible. Dans toutes les églises, ça arrive. Mais quand ça arrive, là, c'est dramatique, frère et sœur. Quand quelqu'un s'assoit dans ton coin, puis tu as l'impression que c'est peut-être un nouveau. Va le voir, je t'en supplie. Après. Oui, mais Richard, moi, je suis introverti. Hey. Mais t'es-tu marié? Généralement, tu vas te marier avec un extraverti. Alors, l'extraverti, là, c'est toi, là. Tu prends la responsabilité et t'amènes ton conjoint intro. Et, hein, bonjour, quel est ton nom? Notre nom? N'oublie pas le nom de ta femme, là. C'est ton... Puis là, tu présentes, puis là, évidemment, la crainte de l'introverti. Qu'est-ce que je vais dire après, là? Mais t'es correct. Il y a un extraverti à côté de toi. Lui, pas de problème. Il va parler, mais... Mais juste ça. Si t'es extraverti, là, t'as un ministère. T'as un ministère, je t'assure. Fais quelque chose avec ça. Va saluer les gens. Accueille-les avec un beau sourire. C'est très important, tout ça. C'est des détails, Richard. Oui. Mais des détails extrêmement importants. Ça, c'était l'accueil facile. Tu apprends les noms. L'accueil coûteux maintenant. Voyez-vous, en général, ce qu'on recherche lors d'un culte, c'est un bon temps d'adoration vers Dieu. Ah, tellement bon. Où Dieu nous parle, on lui parle, il nous parle par sa parole. Puis ensuite, on retourne dans la maison. On a été nourri. Mais après le bon message de Yannick et la belle louange de l'équipe de musiciens et de chants, comment est-ce que l'accueil va se manifester durant la semaine? Oh. Et là, mes amis, on a tout un défi à relever dans notre société, dans nos églises individualistes. Regardez avec moi le tableau. C'est un livre que j'ai lu, je vous le recommande, vraiment bon. Foreign and Familiar, Sarah Lanier. Ça présente les différentes cultures. Et voici la culture des pays chauds, climat chaud et climat froid. Vous allez voir, vous allez vous reconnaître. Puis nos amis brésiliens vont se reconnaître aussi. OK, regardez, on commence. Basé sur les tâches. Est-ce que tout est bien fait? Est-ce que c'est correct? C'est notre culture. Basé sur les relations. Les tâches viennent après. Ensuite, la communication doit donner une information juste et véridique. Une information claire, précise, juste. L'autre, la communication doit créer une atmosphère positive. Même si ce n'est pas tellement juste, c'est moins grave. La société vers le climat froid est orientée vers la logique. L'autre est orienté vers les sentiments. « Hey, on a eu un bon culte ce matin! Wow! » Hein? Nous autres, c'est « Y avait-tu de l'information? C'était-tu biblique? » Excusez. « L'efficacité et le temps sont d'importantes priorités. L'efficacité et arriver à temps sont d'importantes priorités. Et les prendre au sérieux, c'est une affirmation de respect pour l'autre personne. Ça, c'est dans notre culture. L'autre, c'est l'efficacité et le temps ne prennent pas la priorité sur la personne. Même parler d'affaires est inapproprié à une première visite, même si c'est une réunion d'affaires. Oui, il y a une différence un peu, hein? Ouf! Évidemment, chaque culture, chaude ou froide, a ses travers. Là, je souligne nos travers, mais ils ont leurs travers aussi, faites-en pas. Sentez-vous pas là coupable. C'est intéressant que lorsqu'on fait « J'aime mon voisin », on va aider les gens durant l'été. C'est intéressant. On visite les familles qu'on a aidées, et toutes les familles, je pense qu'il n'y en a pas une acceptée, là, qu'on est allé visiter, qui venait d'Afrique, qui venait d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, ils nous disent « Où est-ce que vous avez pris cette idée-là? » Ici, au Québec, c'est chacun pour soi. Dans notre pays, c'est comme ça. Où est-ce que vous avez pris ça? Réaction naturelle. Donc, quand ils nous regardent, là, ils disent « C'est chacun pour soi au Québec. » Ça, c'est le côté négatif un peu de notre arrière-plan. C'est le constat des immigrants. Et j'aimerais vous citer, vous donner une citation qui est bien importante. Et ce côté individualiste va même dans la spiritualité. Notre culture nous apprend à nous accepter tels que nous sommes, n'est-ce pas, hein? Ça, c'est partout. Et à affirmer notre droit à être comme ça. Mais l'individualisme appauvrit la vie de ceux qui le recherchent. C'est l'affirmation de M. Taylor. Dans la culture occidentale, la personnalisation de la spiritualité est devenue la norme. La nouvelle spiritualité est non seulement centrée sur soi-même, mais également définie par soi-même. Quelle pauvreté de rechercher le spirituel en soi et de faire de ce soi la source et le tout de la spiritualité. Ni le soi, ni la raison ne peuvent à eux seuls procurer la nourriture nécessaire pour satisfaire la faim du cœur humain. La maturité se manifeste premièrement dans les exigences relationnelles accrues par la vie en communauté. Frères et sœurs, il n'y aura pas de changement dans l'accueil si on ne prend pas conscience de notre arrière-plan. Impossible. Il faut faire un constat. Et on a un problème. Ils ont aussi un problème. J'aimerais vous faire remarquer, là. Mais c'est pas ça que je traite ce matin. Je te donne notre problème. Pour avoir un accueil personnel, il faut que je change ma mentalité. Suis-je prêt à reconnaître que culturellement, je suis en grande partie conditionné à comprendre ma spiritualité comme une affaire personnelle? Mêlez-vous de vos affaires. C'est ma spiritualité. Je dois commencer par comprendre que ma conception est influencée par ma culture. On a lu un verset tantôt dans Matthieu 25. Comment Jésus perçoit la spiritualité? Entre les boucs et les brebis dans la parabole? Hein? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères. » Ici, il parle de l'amour entre frères dans l'Église. Il ne parle pas de le faire en dehors. Il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Mais le texte ne parle pas de ça. Il parle de l'amour fraternel dans l'Église, parmi le peuple de Dieu. Il dit, vous avez donné à manger à un frère qui a faim et soif. Vous avez accueilli un frère étranger qui venait vous visiter. Vous avez vêtu un frère qui était nu. Vous avez visité un frère malade qui était en prison à cause de sa foi. D'après Jésus, c'est ce qui caractérise un vrai chrétien d'un faux. Ouf! En bon Québécois, on a des croûtes à manger. Frères et sœurs, c'est sérieux, là. C'est incroyable ce qu'il affirme là. Non simplement le pardon mutuel est une manifestation que je suis un enfant de Dieu, mais de prendre soin, mes frères et sœurs, comme si c'était Jésus lui-même, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ce qui caractérise un vrai chrétien, un faux chrétien. L'amour. Il y a 26 les uns les autres dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Et ça va se faire dans les petits groupes en grande partie. Est-ce que je veux changer ma mentalité individualiste? Et vous savez, il faut changer la mentalité. Et ensuite, ça passe de là et ça va là. J'en parle à mon conjoint. Tant que la victoire n'est pas gagnée là, là, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Les couples. Oui. Si on peut voir nos couples convaincus de cette réalité-là, on vient de gagner la bataille des plaines d'Abraham. C'est là que ça se passe. Changer notre mentalité individualiste dans notre vie familiale, nos couples. Je me souviens encore, Robert, il est avec le Seigneur aujourd'hui, puis il me disait, Richard, moi je recevrais tous les jours chez nous, tous les dimanches, il y aurait l'église. Il était très accueillant. Mais il dit, ma femme, sa femme est intellectuelle, elle n'aime pas faire à manger. Ils n'ont jamais trouvé un terrain d'entente. Ça, c'est l'histoire de la majorité de nos couples. Je suis presque certain. C'est notre histoire. Quand je dis notre couple, on lutte là-dessus depuis des décennies. Comment arriver à une entente mutuelle? Là où l'introverti à sa place, puis il ne se sent pas jugé. Puis l'extroverti, il comprend l'introverti qui a besoin d'espace, il a besoin d'un temps seul, il a besoin... Hein? Et qu'on arrête de se juger l'un l'autre, mais qu'on trouve un terrain d'entente. Hein? Où l'extroverti ne dit pas à l'autre, « T'es toujours pogné dans la TV, tes jeux vidéo, puis tes livres. » Puis l'introverti dit, « T'es donc superficiel, faut toujours qu'il y ait du monde. Hein? » Trouver un terrain d'entente. Discuter. Pas facile, je le sais. Il faut reconsidérer nos valeurs. Est-ce que cette promotion de carrière va me permettre de vivre la communauté? Est-ce que j'ai simplement le temps de vivre l'accueil? Vous savez, il y a un couple missionnaire de notre association qui me disait il y a peut-être 2 ans de cela. Il dit, les églises du Québec ont changé. Quand on va dans les églises, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune famille qui nous accueille. C'est quelque chose. Et une des autres tentations qu'il faut vaincre, c'est, en tant que couple, le service de repas à 5 étoiles. Ah non, ça ne va pas. Ça coûte cher, ça va de l'être cheap. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Simplicité. Et tu vois, si tu n'as pas réglé l'histoire de comment les gens vont me percevoir, ben c'est sûr que... « Ah non, pas prêt, la maison n'est pas tout à fait propre, j'ai mal dormi hier, j'ai... » Mazin. Et il faut revisiter nos priorités de l'agenda, il faut s'asseoir ensemble en tant que couple, puis dire « Quand est-ce qu'on va recevoir? » Si tu ne mets pas ça dans ton agenda, là, oublie ça, ça ne se fera jamais. Au ciel, peut-être. Du temps, là, hein? Non. Il faut le mettre dans l'agenda. Regardez, on travaille ça, moi et mon épouse. C'est pas facile. Pas facile pour personne. Mais quand on le fait, et on le fait, wow! On voit les effets. On voit les effets. Et inclut tes enfants. Les enfants vont aimer ça. Ils vont être contents. « Hey, il y a du monde chez nous, enfin! » Hein? Les enfants, ils aiment ça. Inclus-les dans l'hospitalité, qu'ils apprennent à mettre la table, à t'accompagner dans, en tant que couple, dans votre activité. Évidemment, il y a l'accueil dans les petits groupes, dans vos petits groupes, très important. Transporter quelqu'un, aller le chercher. Oh, fatiguant. Hein? Est-ce que la grâce nous fait bouger? Moi, un des soucis que j'ai, c'est on prêche la grâce, c'est très important parce que tout ce qu'on fait doit venir de la grâce. Mais si ça ne me fait pas bouger, là, j'ai pas compris la grâce. Désolé. Si ça ne me fait pas bouger, si mon cœur n'est pas touché pour agir, j'ai pas compris la grâce. C'est une notion. C'est une émotion. Mais la volonté n'est pas touchée encore. C'est pas normal. Oh, que Dieu nous aide. Dans les églises maisons, hein? Nous, on les appelle les églises maisons, les petits groupes. Wow! S'accueillir. Porter les fardeaux les uns les autres. Aller le voir après la réunion. Parler avec lui. T'as partagé ça tantôt. Dis-moi en plus. Est-ce que je peux t'aider? Je vais prier pour toi cette semaine. Je vais porter ton fardeau. La communauté, frères et sœurs, c'est là que ça se vit. Je conclue avec une affirmation de M. Taylor, le livre que j'ai cité tantôt. Le rôle des anciens pour créer la communauté chrétienne est peut-être un des aspects le moins compris du ministère chrétien. C'est clair, selon l'Écriture, que la création de la communauté dépend beaucoup des anciens et particulièrement de la chair. Pas de la chair ici, mais de la chair là. Avez-vous remarqué ça? Montrez-moi vos anciens. Et je ne suis pas en train de viser Yannick du tout, là. Particulièrement ceux qui enseignent. Je vous montrerai votre assemblée. Allez dans une église, là. Regardez les dirigeants. Regardez l'église. Il va y avoir beaucoup de similitudes. Frappant. Vraiment frappant. Et donc, je m'adresse aux anciens. Frère, moi, je me souviens, j'accueillais les gens à la sortie, quand ils sortaient. C'est important pour moi. Les gens sentent qu'on les aime. Mais les enfants passaient, puis... c'est pas des personnes, eux autres. Ils sont vraiment repris. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » sont aussi importants que les adultes. Prends le temps de les saluer. Est-ce qu'ils sont invisibles, les enfants, dans l'Église? En tant qu'anciens, là? Les autres aussi ont besoin d'être salués. Et c'est ça que Jésus a fait, hein? Notre modèle. Combien il a accueilli? Quand il était avec la Samaritaine, les disciples étaient là. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Je pense à mon ex-détenu. Je suis tellement content qu'on l'a accueilli. Mais ça nous étire, je peux vous dire ça. Il veut me voir à toutes sortes d'heures. Ça m'étire. Ce n'est froid chaud, là. Structuré, personne avant. Ça me parle. Prions Dieu. Ah, Seigneur, Seigneur, je te demande un miracle dans nos vies. Un miracle dans nos vies, Seigneur. Seigneur, cet individualisme est tellement ancré dans notre culture. C'est ce qui la définit. Et qui crée aussi tellement de problèmes. Seigneur Jésus, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur. Seigneur Jésus, vient à notre secours. On a besoin de toi. Amen.